faut savoir que la fédération des familles de la musique traditionnelle est absolument remarquable parce que moi qui ai parlé de cette invisibilité, je dois dire que là, il y a la musicien ensemble et facteur d'instruments traditionnels se retrouvent au sein de la même fédération qui a joué un rôle très actif et d'ailleurs nous a aidé à trouver le nom Perle Noire du jour. Saluer aussi ton travail et dire que, en fait, tu disais que Christian, que je connais depuis des années, donc il était luthier chercheur et parce que lui, il est vraiment commencé. En fait, vos parcours sont en miroir. Parce que lui, il a une formation de luthier, il est allé en Italie, il a auprès de Morassi un grand luthier, et il a poursuivi après des études pour devenir organologue et chercheur. Et toi, tu as commencé par la deuxième partie pour rejoindre, et je trouve que c'est un joli miroir. Il y a eu l'enjeu des instruments artisans, l'instrument complexe qui est produit d'une manufacture ou d'une chaîne de production. Ça, il y a beaucoup d'instruments. C'est un sujet qui est là. Évidemment, il y a le piano, mais aussi les instruments type clarinette et tous ces instruments-là. Et l'harpe également. C'est comme les accordéons. Là, on a les deux instruments très complexes. Et alors, la vielle à roue, ça, c'est extraordinaire. C'est peut-être l'instrument le plus complet. Un des très très complexes, mais là ils sont fabriqués par une seule personne.
Oui, là il n'y a pas de manufacture.
Il n'y a pas de manufacture. Enfin bref, on pourrait continuer à dire que donc il y a vraiment il y a des choses qui nous réunissent, il y a des choses qui sont vraiment typiques d'un instrument à l'autre. Il y a des croisements tout d'un coup qui apparaissent parce que je n'ai pas moi cette histoire de manufacture, instrument complexe, chaîne de production, quelque chose qui apparaît, qui se révèle. Merci beaucoup pour cette première journée, une deuxième journée qui va être aussi riche. Et puis je pense que on va plein de choses à continuer à se raconter. Merci beaucoup à tous.
On va commencer avec une première table ronde sur l'instrument de musique entre patrimoine et innovation. Puis on aura une table ronde sur l'économie des instruments de musique. Les démonstrations, on va les démonstrations d'instruments, on aura trois stands. Choses extrêmement intéressantes à voir, à tester. On pourra jouer avec, parce que c'est tout l'intérêt. Et cet après-midi, on aura des tables rondes plutôt sur la question de la transition de l'obsolescence. Donc une première table ronde sur durabilité de l'obsolescence, question des matériels et savoir-faire, à la fois sur l'acoustique et sur le numérique. Et une deuxième table ronde sur la transition écologique de la facture instrumentale. Voilà pour le programme. Et du coup, on va attaquer tout de suite avec la première table ronde. Et du coup, je vais demander aux intervenants de bien venir. De rejoindre et de prendre place. On est alors, c'est la table ronde avec le plus de monde. On essaiera de ne pas trop déborder au niveau du timing.
Musicologie médiévale à l'université de Montpellier Paul Valéry.
J'ai été formée auprès de Marie-Noël Colette et Olivier Culin pour ce qui concerne la direction de ma thèse, donc formée dans une tradition très rigoureuse de philologie musicale. J'ai été formée aussi au CNSMD de Paris. Mais très vite, je dirais quelques peu d'années après mes prises de fonction à Montpellier, une évidence s'est imposée. Ces musiques médiévales, donc, ne sont pas dans les manuscrits. Elles sont dans des corps, dans des gestes, dans des espaces, dans des relations. Un manuscrit contient au mieux des notations, sinon des textes, des images, etc. C'est ce qui m'a conduite à développer progressivement ce que j'appelle une musicologie incarnée, c'est-à-dire une musicologie qui ne sépare pas le savoir et la pratique, ou plus exactement, qui considère que le faire est producteur de savoir tout autant que le sont les méthodologies académiques. Et qui considère que la recherche passe aussi par l'expérimentation, par le travail avec les artistes et les luthiers. J'ai créé une structure il y a 11 ans qu'on a appelée Centre international de musique médiévale, qui est un lieu atypique, un espace interstitiel où l'on fait dialoguer chercheurs, artistes, artisans, et puis les publics, les étudiants, etc., etc. On y travaille sur les questions d'oralité de ces musiques médiévales, de modalité, de corporéité, d'espace, de spectacularité aussi pour ce qui touche au spectacle vivant. Autrement dit, sur tout ce que la musicologie académique a longtemps laissé de côté parce que ça n'était pas directement objectivable. Au fond, la position que je défends, elle est assez simple. Reconstruire ces musiques, ça n'est pas reconstituer un passé, c'est rouvrir des possibles. Et dans un moment où nos rapports au vivant, à l'écoute, à la mémoire, sont profondément questionnés, ces répertoires anciens ne sont pas que derrière nous, ils sont d'une certaine manière avec nous et devant nous.
Merci beaucoup. On va continuer avec Antonio Sava.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Moi, du coup, j'ai effectué ma thèse de doctorat à... Ça marche ? Ma thèse de doctorat au Collège Musicae de l'Alliance Sorbonne Université, c'est un institut qui a pour objectif de franchir les barrières entre les disciplines qui traitent de ce même objet qui est la musique, à l'occurrence dans mon cas l'instrument de musique, en essayant du coup de développer des nouvelles, des méthodologies quelque peu inédites, transdisciplinaires on va dire, autour de ces objets. En particulier, moi je me suis intéressé pour plusieurs raisons, l'une est que à la base je suis formé comme pianiste. Repenser la pratique des instruments historiques, notamment des pianos historiques, en interaction avec les musiciens aussi, essayer de se placer un peu en interface entre cet objet matériel qui est le pianoforte, le forte-piano, selon la nomenclature qu'on souhaite adopter des époques, les chercheuses artistes. Qui cherche effectivement, comme on l'a déjà dit plusieurs fois ces jours-là, à restituer, non pas à reproduire une pratique qui, elle, est forcément disparue et dont les sources nous donnent en fait un aperçu un peu pourri de ce que ça pouvait être de jouer de ces instruments. Donc voilà la thèse, et ensuite j'ai effectué un postdoc avec Xavier Boutillon qui est ici présent au LMS, laboratoire de mécanique des solides de l'École Polytechnique, pour collaborer à un projet de développement de clavier, un procédé technologique qui vise à reproduire le toucher, à restituer là aussi le toucher sur les claviers numériques. Et le procédé, c'est véritablement un procédé de synthèse du toucher, donc de restitution d'un retour d'effort des touches qui permet aux musiciens, encore une fois, d'enrichir en fait, la capacité à interagir avec le son qui produit avec ces instruments. Et moi, j'ai, on va dire, la technologie était ça, est déjà assez maturée quand je suis arrivé. Disons que moi, j'ai un peu catalysé, on va dire, la réflexion sur les usages possibles de ce procédé inédit qui permettrait en fait d'ouvrir tout un champ possible sur à la fois la restitution de touchés qui n'existent plus, mais aussi la création de nouveaux touchés, l'imitation de touchés existants. Voilà, c'est l'exploration de ces possibilités qui sont ouvertes par cette technologie qui m'intéresse.
Merci beaucoup. On va continuer avec Maxime Caron. Oui, ok. Merci beaucoup de m'inviter. Donc moi, je suis Maxime Caron, je suis à l'origine chercheur en acoustique, donc j'ai fait ma thèse de doctorat à l'IRCAM dans l'équipe de conception et design sonore entre 2013 et 2016. Donc j'ai un parcours scientifique, hein, avant ça j'ai fait des études physiques, mathématiques, etc. Et je me suis intéressé à ce moment-là à la perception des sons, à la manière dont on va décrire le timbre et les sons avec des mots de vocabulaire et à quel point cette représentation, cette verbalisation autour du timbre va être partagée dans une discussion entre les individus, dans différents contextes, avec des personnes de différents types, de différents parcours. Et ensuite, à la fin de ces travaux de recherche, je me suis associé avec une amie chercheuse et j'ai créé une entreprise SIOS, donc SIOS en acronyme de Shape Your Own Sound, de Lutry. Donc on fabrique des pièces d'instruments de musique, donc en particulier des becs de saxophone, des becs de clarinette, maintenant des bouches de trompette également, avec en fait une démarche scientifique. On est tous les deux issus d'un parcours de recherche, moi et mon associé, et notre but, un peu, notre motivation, c'est aussi de remettre un petit peu plus la science au cœur et les nouvelles technologies au cœur de la conception des instruments de musique d'aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est que on étudie, on essaie de comprendre le fonctionnement des instruments d'un point de vue scientifique en pratiquant des expériences de psychologie expérimentale avec les musiciens, en faisant des modélisations acoustiques, et de se servir de ça pour optimiser et en termes d'aide à la conception des instruments. Voilà, on fait aussi de la personnalisation d'instruments, notamment en termes de nouvelles technologies, on utilise aussi des technologies comme la fabrication additive, donc l'impression 3D, pour nous aider dans la fabrication des instruments. Mais voilà, c'est pas forcément c'est pour ça qu'on est connu, mais c'est pas forcément ce qui nous définit le plus, ce qui va vraiment nous définir en tant qu'entreprise, c'est plutôt notre démarche scientifique de conception d'instruments. Voilà. Donc on produit tout à Paris pour les sites d'infos, hein, et puis on expédie un peu dans tous les pays du monde. On a une production d'à peu près 10 000 pièces par an. Ouais. Petite entreprise, mais déjà on a réussi à avoir un rayonnement un petit peu global dans le marché du saxophone principal. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer avec Mickaël Joustran.
Bonjour. Merci pour la dépo, c'est pas moi qui l'ai fourni. Donc, je m'appelle Mickaël Jousserand, je suis directeur de recherche, développement et innovation chez Buffet Compagnon. Donc, Buffet Compagnon, c'est une entreprise qui a célébré ses 200 ans de carrière, qui est spécialiste surtout dans la fabrication d'instruments. Donc, tous ceux que vous voyez derrière moi sont fabriqués sur le siège historique situé à Mont-de-la-Ville, à côté de Paris. Depuis plusieurs années maintenant, ces structures en groupe, ce qui fait maintenant il y a 12 marques. On a aussi des cuivres en Allemagne avec PNS ou Antoine Courtois ou Melton Menel. Il y a beaucoup de marques. Plus récemment, on a aussi repris les ateliers Bergeron qui font des percussions. Donc, moi j'ai une formation à la base d'ingénieur en matériaux, c'est comme ça que je suis rentré chez Buffet Compagnon. Il y a 20 ans déjà, pour travailler sur un matériau composite qu'on appelle le clay line, qui bien que fait à partir de bois de grenadine, est une alternative pour les instruments professionnels au bois massif. Et j'ai aussi créé plusieurs relations avec le monde de la recherche, notamment en acoustique musicale, qui ont permis la réalisation d'un certain nombre de de projets à l'INR, avec l'IRCAM notamment, et le LMA à Marseille. Et en 2017, on a pu réaliser ce qu'on appelle un laboratoire commun avec l'équipe Centre du LMA à Marseille, ce qui nous permet d'avoir un cadre, un programme de recherche sur différentes thématiques. Alors, on a une thématique caractérisation, expérimentation, pour avoir des mesures objectives des instruments et pouvoir alimenter des modèles. Ces modèles, ils servent à une partie optimisation. On essaie de concevoir de manière scientifique des instruments avant uniquement. Et puis, on a aussi une partie perception, un peu le décrit Maxime. Et alors là, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression que derrière le même vocabulaire, tout le monde comprend la même chose. Mais c'est très différent. On rencontre les instruments de musique qui sont développés principalement avec des musiciens. Souvent, on leur offre des prototypes, ils les évaluent, ils nous donnent des retours. Ici, déjà, on comprend mal les termes qu'ils emploient. Brillant, ça peut être positif pour quelqu'un, ça peut être négatif pour un autre. Enfin, c'est très compliqué. Quand en plus on traduit ces mots dans d'autres langues, ça crée aussi d'autres difficultés. Donc c'est vraiment un thème important, mais très difficile de homogénéiser. Et plus récemment, donc on s'est lancé dans autre chose, c'est-à-dire qu'on essaie de créer une passerelle entre les instruments acoustiques traditionnels, tels que clarinette, et les faire entrer dans le monde digital. Et donc c'est ce que je vais présenter lors de la présentation. En fait, on a créé une sourdine numérique pour la clarinette. Alors, il y a déjà quantité d'instruments, il est possible de jouer silencieusement, si on prend le piano, le système, silent, ou les batteries, ou les trompettes. Les trompettes, une sourdine et un seul trou, c'est assez accroché. Mais pour les quatre instruments à trous latéraux, comme la clarinette, le saxophone, le hautbois, la flûte traversière, c'est beaucoup plus compliqué puisque le son rayonne par tous les trous. Donc, en fait, on a développé un certain nombre de technologies qui permettent de détecter le doigté joué par l'instrumentiste en temps réel, ainsi que ses paramètres de contrôle, principalement le souffle et l'appui sur manche, pour alimenter un moteur synthèse qui reproduit un son. Alors, c'est pas la même expérience que jouer d'un instrument acoustique, mais ça permet d'une part de jouer silencieusement, parce qu'on peut pas toujours jouer en faisant du bruit, et ça permet aussi de digitaliser le geste, et donc ça donne accès à tout ce qui est environnement MIDI ou autre, on peut communiquer avec différents softwares, s'en servir pour de l'écriture des logiciels de notation musicale. Voilà. Merci.
Super, merci beaucoup. Et en dernier, donc, nous avons Carole Rendu et Alice de Seine. Mais je vais passer vos slides, ce sera peut-être plus sympa. Dites-moi si vous voulez que je rentre dedans.
Oui, donc Carole Rendu, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis la directrice générale de l'ITEM, je suis arrivée en mars 2020. Et avant, j'ai eu un parcours de 28 ans, un parcours académique avec 20 ans à l'Université d'Angers, 6 ans à Organicia, et je suis maintenant sur une thèse en sciences de gestion, en ressources humaines, donc vraiment sur la partie management d'une structure et plus particulièrement les questions de mutualisation d'emploi dans la filière musicale. Donc c'est pas mon expertise qui va être intéressante aujourd'hui, mais en accompagnement d'Alicia qui est en responsabilité du pôle innovation. Pour vous présenter rapidement l'ITEM, c'est une structure qui a vocation à transmettre les savoir-faire dans la facture instrumentale sur 4 familles d'instruments et qui existe depuis plus de 30 ans, 92, donc 36, 34 ans maintenant, qui est issu d'un projet européen et on transmet sur les questions de lutherie guitare, de piano, d'accordéon et d'instruments à vent en CAP et en brevet métier d'art qui s'appellera bientôt le brevet national métier d'art pour travailler avec la CSFI ardemment et avec la CSMM. Et on a au cœur de cette structure quelque chose d'un peu étonnant qui est un pôle innovation qui était au départ aussi de la structure en 1992, qui a été soutenu longtemps par l'État jusqu'en 2020 pour être un des deux pôles de recherche en fait en métier d'art, à savoir la facture instrumentale et la perfide d'art. Ce label a disparu entre guillemets, on maintient l'effort au travers d'un projet que Calicia vous présentera, des ANR et autres France 2030, pour être un peu un pôle mutualisé de R&D pour les petits artisans et l'ensemble en fait, des professionnels de la facture instrumentale. Donc voilà un petit peu un des projets qu'on vous présentera, qui est un travail d'archéolutherie et de reconstitution de l'instrumentarium des anges musiciens de la cathédrale Saint-Germain à Beaumont. Voilà, je laisse la parole à Alicia.
Ok, merci beaucoup. Donc, Alicia Dezeille, responsable du pôle recherche et innovation de l'ITEM. Donc, comme le disait Carole, un pôle donc, assez particulier qui, au sein d'une école, donc, s'intéresse à la recherche autour des instruments de musique. Là, récemment, plusieurs projets avec celui qui est illustré derrière nous, qui consiste donc à restituer, j'utilise le bon mot normalement, restituer des instruments médiévaux par de nouvelles méthodes d'archéolithrie notamment, mais aussi de captation d'images de la fresque et de restitution qui utilise aussi des moyens numériques de fabrication des instruments. D'autres projets aussi sur la recherche de matériaux de remplacement, notamment sur les instruments à gants comme les hautbois ou les clarinettes, pour remplacer l'ébène du Mozambique, le Dalmergien et la Nocino, par d'autres bois qu'on peut trouver autour de chez nous, qu'on choisit de doper pour les rendre suffisamment durs et résistants du coup aux variations d'humidité et de température auxquelles sont soumis les instruments à gants lors du jeu des musiciens. Ça, c'est un projet France 2030. Et aussi un ANR avec nos partenaires laboratoires autour de nous, notamment le LOM, la mode acoustique du Mans. Donc là, un projet plutôt sur les barrages de guitare, tenter de trouver une alternative aux barrages traditionnels avec des matériaux plutôt architecturaux. Voilà, pour les projets du pôle. Et je pense qu'on parlera aujourd'hui plutôt de celui sur les anges musiciens de la cathédrale du Mans, dans cette optique d'innovation et de transmission du patrimoine musical.
Bah, peut-être en fait vous pouvez commencer par en parler, les essais qui sont là, vous pouvez faire. Ensuite on va faire une discussion un peu plus que vous.
Alors c'est parti.
Dites-moi quand vous voulez que je.
On va passer à la suivante, même un instrument. Non, on était bien sur les chiffres.
Ok. Donc on a 24 anges musiciens sur la fresque de la chapelle des anges musiciens de la cathédrale du Mans. Et jusqu'ici, on a réussi à en restituer trois. Bon, le premier est ici illustré, c'est un échiquier. Donc là, on... Ok. Donc c'est un instrument à cordes, en fait, à cordes frappées. Il y a un petit clavier qui se trouve sur le côté, et au-dessus, en fait, ce plateau qui se soulève, et on peut voir l'intérieur de l'instrument. Et donc c'est... Oui, on peut passer à la suivante. Et donc il a fallu déjà commencer forcément par toute une recherche iconographique sur l'instrument. C'est là que finalement on s'est rendu compte qu'une représentation de l'échiquier, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux, et elles sont au Mans, l'une sur la fresque et l'autre sur un des vitrails de la cathédrale. La première chose, c'est d'identifier à quelle famille appartient à l'instrument, quel était l'usage aussi, est-ce que c'était un instrument qu'on utilisait plutôt pour faire la fête, ou alors au contraire dans une ambiance intimiste, et c'est ça dont il s'agit pour l'échiquier. C'est un instrument où on dit guide-chant, donc en fait ça servait surtout à donner la note au début pour ensuite appuyer les chanteurs. Donc le son est assez doux et discret, d'ailleurs on a toujours la volonté de sonoriser l'instrument quand on fait les concerts dans la chapelle. Voilà, avec une vue, la représentation à droite pour vous et la vue du dessus, sur le côté okay, de l'instrument donc, qui a été restitué par un de nos luthiers, Maël Robichon, à l'ITEM. La statue suivante, c'est tous les chéquiers en fait, qu'on voit sur le dessus. Donc là, le luthier est allé se former au Maroc sur des techniques particulières de fabrication d'échiquiers. Oui, on peut passer à la suite. Ça, c'est pour le deuxième instrument qui a été restitué aussi en 2023. C'est une flûte double, donc il y a des jointes au milieu. Et l'instrumentiste, du coup, joue les deux flûtes en même temps. L'une est en sol, l'autre est en ré. Elle a pareil, même démarche, savoir recherche iconographique pour balayer toute représentation qu'on peut trouver de l'instrument. En fonction des époques, pour en déduire un diapason, comment était le biseau des flûtes, etc., comment il était joué. Et donc là, c'est le luthier Philippe Bolton qui a fabriqué cette flûte, qui a été jouée également lors des concerts qu'on fait à la Biennale du Son. Donc tout un festival au Mans qui a lieu tous les deux ans. Voilà, pareil. Et la dernière, donc celui-ci, c'est une guitare, donc l'ancêtre de la guitare, qui a été restituée là en 2025 et présentée à la Biennale 2026 par l'un de nos luthiers apprentis guitare de l'IDEM et appuyé par l'archéologue Olivier Ferrand qui était là hier ou quoi, lors des conférences. Salut. Donc, ok, du coup, je fais attention à ce que je dis. Donc la guitare, on a de la chance, la représentation était bien conservée sur la place, ce qui n'est pas le cas pour tous les instruments. Et donc le luthier Ismaël Guessny est parti de plusieurs hypothèses. Déjà, il a utilisé des bois qu'on trouve autour de chez nous, donc le tilleul pour tout le corps de l'instrument, l'épicère pour la table d'harmonie, évidemment, et le buis pour les éléments comme les chevilles, le cordier, et tout ça. Et tu voulais passer? Ok. Mais donc voilà, choisir aussi le bon tempérament pour toutes les cordes, le choix des cordes, le choix des matériaux des cordes, on a essayé d'être raccord avec l'iconographie et toute la recherche qu'on avait pu faire pour choisir des cordes en boyau de mouton. Et la rosace qui a été choisie pour cet instrument est inspirée du motif qu'on trouve au centre de la... La rosace centrale de la cathédrale, oui, c'est ça. Et donc sur les photos qu'on voit défiler, c'est les étapes simplement de fabrication en fait de l'instrument.
Clairement, peut-être rapidement, ouais, quand même, histoire de...
Okay. Si je peux commenter ici, donc c'est le travail de la pièce de bois tilleul qui dit monoxyle, je crois que c'est dit comme ça, d'une seule pièce, en fait, on part d'une seule pièce qu'on vient creuser pour faire tout le corps de l'instrument, de la voûte jusqu'à la tête, quoi. Et donc là, c'était le début, le dégrossissage de l'instrument. Et après, il y avait tout le travail extérieur de la voûte avec des gabarits, que le luthier a pu réaliser en passant par la simulation de l'instrument, notamment, qu'on voit en haut de la salle. Oui, il y a le creusage qui était une étape particulièrement sensible, utiliser un petit instrument qui prend la mesure à l'aide d'un petit aimant placé d'une part et d'autre de la voûte pour être sûr, par zone, de bien faire la bonne épaisseur, de manière homogène. Le long de la voûte. Et puis voilà, ça je crois que c'est... Et la sculpture de tête. Donc là, il s'est lancé dans la sculpture pour la première fois, donc il essaie de reproduire aussi fidèlement que possible ce qu'il voyait sur l'image, dans la réalité.
On a travaillé avec l'école des Beaux-Arts sur la partie tête, en fait, on visait l'école des Beaux-Arts.
Et donc le projet c'est d'élargir tout le travail de restitution à l'ensemble des instruments en tout cas qui sont encore suffisamment visibles pour être restitués, pour reconstituer en fait l'instrumentarium de la cathédrale du Mans.
Oui, puis l'idée c'est aussi après d'aller chercher une expérience différente pour attirer les publics et faire de la médiation culturelle autour de ces instruments. Donc là, on a déposé et on soutient bientôt un dossier sur le fait de transformer une exposition virtuelle, c'est-à-dire de laisser la possibilité à un public qui n'irait pas forcément très facilement vers ce type d'instrument lors de visites en expo virtuelle, puis de leur permettre de toucher, d'accéder à un instrumentarium reconstitué, d'organiser une série de concerts autour de ça, donc d'être vraiment sur... aller chercher, faire connaître cette diversité instrumentale, ce patrimoine, aller chercher le public autour de ça. Et on peut observer quand même que sur le Moyen-Âge, en fait, il y a un renouveau certain de la pratique instrumentale et de la redécouverte de ces instruments. C'est ce qu'on observe, parce que quand on fait, nous, les concerts, alors je ne sais pas si c'est typique au public Manceau, mais on avait en 2024 400 personnes sur tout concert. Là, on a renouvelé l'expérience en 2026 à autant de demandes. Et globalement, c'est ce qu'on a comme écho dans les territoires, qu'il y a une appétence pour ces reconstitutions, pour voilà, une archéologie qui permet de faire revivre ce patrimoine-là. Donc, nécessité aussi d'aller chercher des techniques innovantes qui facilitent effectivement la restitution, le travail iconographique et la restitution pour permettre d'avancer en fait sur dans ces démarches-là. Et d'être entouré effectivement par Olivier et tout l'ensemble d'Arsenal qui joue, parce que c'est vous qui avez fait les concerts, et vous étiez étonné aussi en 2024 de personnes présentes.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour ces présentations. J'avais une première question un petit peu commune, donc vous pouvez, n'hésitez pas à répondre et à vous répondre quand il y a des points qui vous sont intéressants sur lesquels rebondir. J'ai l'impression que dans beaucoup de vos travaux, il y a la question un petit peu de l'identité de l'instrument, soit de retrouver l'identité de l'instrument, soit de la préserver tout en rajoutant des composants, des innovations technologiques qui permettent aux musiciens de développer un nouveau son, d'explorer un nouveau son, soit de le recréer de manière technologique, recréer le toucher par exemple. Comment est-ce que vous vous approchez chacune d'entre vous à votre façon dans vos travaux, vous approchez cette identité un petit peu de l'instrument qu'il faut retrouver, qu'il faut préserver, est-ce qu'il faut la préserver d'ailleurs ou pas.
Merci, moi je reviendrai sur le terme d'identité et de l'idée de préserver l'identité. Pour moi, il s'agit d'abord de déplacer la question. C'est-à-dire que l'identité d'un instrument, c'est ni une essence stable, ni un simple ensemble de caractéristiques organologiques. C'est une configuration relationnelle qui engage des matériaux, des gestes, des régimes d'écoute et des contextes d'usage et des imaginaires sonores. Autrement dit, c'est une mémoire active de gestes, de matériaux, de timbres, de fonctions. Cette mémoire n'existe que si elle circule, si elle est rejouée, transformée, remise à l'épreuve. Autrement dit, je pense qu'un instrument ne garde son identité que s'il continue à vivre dans des pratiques. Donc je ne sais pas si quelqu'un va me dire ou pas. Oui.
Non, mais c'est vrai que ce qu'on avait observé, c'est que les deux expériences de 2024 ont été dans la nef centrale avec un public très large. Et en fait, je suis vraiment d'accord avec la question du contexte et de la reproduction aussi, de tout l'environnement et du jeu et du public et même de la spatialisation. Parce qu'en fait, l'expérience était très différente en 2026 qu'on a pu être dans la chapelle qui était enfin rénovée, parce qu'elle était en travaux auparavant. Et on a senti quand même quelque chose qui se passait à ce moment-là, qui était très différent de l'expérience de 2024. Donc je rejoins complètement sur l'idée qu'il y a certains instruments avec ses matériaux, avec sa reconstitution et ses hypothèses organologiques, mais il y a surtout l'expérience concrète dans le jeu qu'on va reproduire. Et puis il y a tout le travail qui est fait après sur le répertoire, qui n'est pas évident non plus. Je sais que enfin, c'est vous qui étiez sur cette partie-là, de retrouver le répertoire de jeu. Voilà. Après, nous, sur le fait de travailler l'identité, je pense qu'on a surtout eu des questions, je pense à l'échiquier autour de 64 cases versus 81, versus voilà, combien, parce qu'il y a des batailles, entre guillemets. Et après, ce sont sur les choix de bois, mais c'est un dialogue qui s'est fait avec les musiciens, je sais. Voilà, est-ce que, enfin, c'est plutôt Olivier qui serait sur cette partie du jeu du musicien. Mais sur l'expérience, on a vraiment été vigilant en 2026 à retrouver l'espace dans lequel plus probablement cet instrument pouvait s'exprimer, plus que quelque chose de très vaste qui ne correspondait pas du tout. En fait.
Oui, ouais, je suis complètement d'accord avec le point de vue que. Qu'on adopte ici aujourd'hui, je trouve qu'il y a une bonne manière de faire le pont entre, disons, les enjeux qui sont plutôt de s'adresser vers les instruments du patrimoine, de restituer le patrimoine immatériel, enfin, qui a disparu, qu'on cherche à restituer aujourd'hui. C'est l'idée qu'en fait, et du coup, l'innovation technologique qu'on peut faire des instruments qui existent ou qui n'existent pas encore, c'est de se dire qu'en fait l'innovation c'est quelque chose d'inhérent à l'identité des instruments de musique. En fait, je pense qu'on est tous d'accord si on dit que l'identité, on va dire, matérielle de l'instrument de musique n'est pas l'identité centrale de cet objet qui est un objet en fait aux multiples identités. L'identité centrale de l'instrument de musique, c'est l'identité musicale. Et en fait, l'identité musicale est celle qui... et en fait, c'est le champ des actions possibles, des invitations à agir que l'instrument de musique offre aux musiciens. Et dans cette identité matérielle qui, en quelque sorte, s'efface du moment que le musicien commence à opérer avec l'objet, je mets aussi mon point de vue au départ, qui est celle de l'acoustique musicale, parce que je n'ai pas dit que je suis formé en physique, que du coup ma thèse était une thèse entre l'acoustique musicale et la psychologie, ce qui justifie un peu tout le travail un peu à l'interface que je fais dans mes recherches. Là aussi, il y a un problème de matérialité, de réponse acoustique de l'objet qui n'épuise pas son comportement. Et il y a plein de démonstrations de ça, en fait. Là, récemment, il y a des recherches qui ont été faites sur la caractérisation, on va dire, psychoacoustique une sorte de validation musicale de flûte traversière imprimée en 3D, par exemple, qui c'était des flûtes dans la collection du Musée de la Musique, c'est un travail de Claudia Fritz qui en fait a montré que les musiciens étaient tout à fait à l'aise avec des flûtes reconstituées grâce à des technologies innovantes, mais du coup en imprimées en 3D avec des matériaux qui ne sont pas ceux, c'est pas du bois. Et en fait, on a l'impression, quand on fait ce genre d'expérience, de tromper en quelque sorte le musicien, c'est-à-dire on lui demande est-ce que c'est ça l'instrument que vous préférez, et on pense que l'instrumentiste aura tendance à dire qu'il préfère l'instrument d'origine, et qu'en fait, quand il finit par préférer l'instrument qui est la copie, on l'a en quelque sorte trompé. Mais en fait, c'est juste que la question est un peu à côté de la problématique, parce que le musicien est intéressé à ce qu'il peut faire, à l'action qu'il peut effectuer, et ce que l'instrument, à ce moment-là, lui inspire, lui suggère de faire. Et c'est un travail forcément dynamique, et c'est dans ça qu'il y a une innovation continue, en fait. C'est une évolution pérenne qui peut se transformer à chaque fois. J'ai voulu lancer cette...
Oui, oui. Alors, à propos des nouvelles technologies, justement, moi, j'avais une réflexion aussi. C'est de les considérer, comment dirais-je, comme un test de vérité. C'est-à-dire, elles obligent à poser une question qui est simple mais décisive par rapport à l'instrument dont on souhaiterait conserver l'identité. Qu'est-ce qui, dans cet instrument, est réellement non négociable ? Est-ce sa forme, son matériau, son texte, son timbre, son rapport au geste, son rôle, etc., etc. Et je pense que là, ça devient intéressant parce que du coup, la réponse n'est jamais donnée à l'avance. Elle ne se trouve ni dans les sources seules, ni dans les objets seuls. Elle se construit dans une mise à l'épreuve collective entre luthier, musicien, chercheur, espace, etc. Et pour les instruments médiévaux, cette question est encore plus radicale parce que leur identité nous est fondamentalement lacunaire. Il n'y a pas de modèle originel auquel revenir, il n'y a que des traces, des indices, des fragments. Donc préserver une identité, ça n'est pas conserver, c'est fabriquer des cohérences.
Non, ben, je pense... la question de l'identité, assez complexe en fait, et surtout de sa préservation, c'est que, en relation avec l'innovation et les nouvelles technologies, c'est que quand on innove, on va forcément changer l'identité de l'objet sur lequel on innove, parce que sinon, il n'y a pas du tout d'innovation. Si on veut vraiment tout préserver, on n'a rien à faire. Donc, on est toujours en train... Quand on fait de la recherche, quand on crée des nouvelles choses, soit de nouveaux instruments, même les améliorer, de modifier de toute façon l'identité de l'instrument. Donc, ça dépend dans quel contexte on parle de préservation. Si c'est de préserver aussi l'identité d'un instrument, pour par exemple faire un travail comme ce qu'on a vu, de conserver aussi, de documenter, de recréer des...
la restitution.
Des instruments, c'est une démarche aussi différente de celle de... on ne parle pas forcément, même quand on fait ça, on ne cherche pas à ce que tous les musiciens se mettent à jouer sur des instruments anciens. Mais on peut faire les deux, en fait. On peut innover d'un côté et chercher quand même à préserver l'identité. Donc ça, d'une part. Et de toute façon aussi, de par la démarche scientifique d'innovation, quand on innove, on est forcément obligé de s'appuyer sur l'identité existante de l'instrument. Donc en fait, c'est justement cette identité de l'instrument qu'on va décortiquer, qu'on va apprendre, qu'on va confronter aux nouvelles technologies, et à la fin de l'histoire, bah, c'est le cas d'usage, c'est la pratique, hein, c'est ce qu'on a entendu. Hein. C'est le musicien qui va accepter ou non c'est le changement, cette innovation, et avec plus ou moins de réticence, ça prend plus ou moins de temps, et puis bah, parfois il y a des innovations qui ne vont pas prendre, il y en a d'autres qui vont... Mais c'est vrai que là, pour rebondir sur la question des flûtes, souvent quand on apporte une innovation qui va faciliter la pratique du musicien, qui va lui rendre service en fait quand il joue, bah, généralement il va pouvoir remettre en question le côté un petit peu traditionnel, et il va peut-être lâcher un peu les choses sur lesquelles il s'accrochait, du type voilà, c'est forcément dans tel matériau, il faut forcément que le trou soit placé, etc. Voilà. S'il se rend compte que bah, ça lui apporte dans la pratique musicale quelque chose qui va changer. Et donc bah, c'est une démarche créative au sens large, mais c'est ça qui va apporter la validation définitive. Voilà.
Alors un petit commentaire pour essayer de pas redire ce qui a été dit. J'étais tout d'accord avec beaucoup de choses. Je pense que la première chose qui me paraît pertinente, c'est que oui, un instrument de musique, il a besoin d'être joué. Il faut qu'il y ait de la pratique pour que ça donne du sens. Et là où je rejoins aussi tout à l'heure ce qu'a dit Maxime, c'est que, enfin, alors l'identité c'est complexe et ça dépend ce qu'on met dedans, mais enfin, si on prend la clarinette, c'est un instrument du 18e siècle, on a commencé avec l'ancêtre de chalumeau, on a rajouté 3 clés, 5 clés, pendant longtemps il y a eu un système à 13 clés qui permettait de jouer chromatiquement, aujourd'hui on a sur un système à 21 clés, il y a même différents systèmes, un système allemand, un système français. Je pense que quel que soit l'instrument qu'on écoute, avec des architectures, des conceptions très différentes, on va reconnaître la clarinette. Il y a une expressivité, il y a un timbre, il y a une tessiture qui est restée conservée. Après, pour moi, en fait, même les instruments qui m'étaient classiques, en tout cas pour les instruments avant, c'est toujours une perpétuelle évolution. Donc, je ne vais pas parler des instruments du patrimoine, parce que je ne suis pas pertinent là-dessus, mais... en fait, ces évolutions sont rendues possibles parce que justement elles satisfont une demande. Donc, les demandes des musiciens en premier qui doivent jouer des choses écrites par les compositeurs qui étaient de plus en plus dures. Et il y a plein d'innovations qui ont été proposées et qui n'ont pas prises. Et on voit que celles qui subsistent, celles qui apportent vraiment un avantage pour les musiciens. Donc, je pense que les instruments de musique, en tout cas actuels, ne sont pas des choses qui sont figées en état, mais aussi des questions d'esthétique sonore, c'est-à-dire que les sons qui peuvent être recherchés actuellement ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, ou il y a 50 ans, donc il y a une évolution, et il faut pouvoir accompagner cette demande-là. Oui, enfin, voilà, je trouve que cette question d'identité est très complexe, et je pense que je ne sais pas exactement dire est-ce que l'innovation technologique peut faire, en tout cas pour le... Ouais, je ne sais pas si je vais réussir à finir cette phrase. Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que l'innovation technologique, elle est là pour pouvoir proposer des choses nouvelles encore, mais ce qui sera accepté ou ce qui peut... parce que, bon, alors, je ne sais pas si je dois le dire, mais... En tout cas, pour les musiciens classiques, on est quand même sur un public qui est très conservateur. Et les habitudes sont très dures à changer. Je vous parlais de la clarinette 13 clés à 21 clés. Quand j'ai dû faire Croupon, on a continué à proposer au catalogue pendant 70 ans la clarinette à 13 clés, parce qu'en fait, c'est tous les professeurs qui savaient jouer sur ce modèle-là et qui, du coup, voulaient enseigner là-dessus. Donc, les changements prennent quand même du temps. Et c'est à prendre en compte. C'est pas pour ça qu'il faut lâcher, mais et puis je pense qu'on a besoin d'innovation aussi, parce qu'il faut aussi satisfaire un public qui malheureusement peut se détourner de plus en plus de la pratique musicale, parce que c'est quelque chose qui est exigeant, qui est chronophage, et le monde d'aujourd'hui on veut l'immédiateté tout de suite, Et donc, même si j'entends bien qu'il y a un certain public qui est friand et très intéressé par exemple par les instruments médiévaux, du patrimoine, parce que ça, c'est vraiment un objet culturel. D'ailleurs, je n'ai pas posé la question, mais je suis très curieux d'avoir un rendu sonore, parce que comme on n'a pas d'exemple de comment sonner ces instruments, je pense que c'est une problématique qui reste toujours ouverte. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi aller de plus en plus, en tout cas en tant que fabricant, c'est ce qu'on se dit, d'être proactif pour faire qu'on ait toujours la pratique musicale qui soit accessible et qui soit, en guillemets, peut-être plus simplifiée ou plus guidée pour que ça continue.
On n'a pas défini les innovations. Il y a effectivement les innovations dans les matériaux voilà, qui se font, j'imagine, avec accès à des ressources et où les difficultés, on voit maintenant à pouvoir toujours accéder à ces ressources-là, à la nécessité de trouver des alternatives. Et les innovations qui sont des innovations en fait, de procédés de fabrication qui ont aussi toujours évolué au fil du temps et qui continuent d'évoluer. Après des choix effectivement de structure d'instruments qui évoluent en fonction d'attentes particulières des musiciens et d'un répertoire qui peut aussi évoluer. Et puis les innovations d'usage, donc il n'y a pas une seule forme d'innovation non plus. Et je pense qu'il n'y a pas d'opposition à faire. On avait pu échanger avec l'ensemble musical de Versailles qui nous disait, on se disait a priori ils vont être hyper attachés à l'identité, à la préservation, etc. En fait, c'est des bricoleurs fous, c'est des innovateurs permanents parce qu'ils ont été toujours obligés d'innover, d'inventer, de trouver des solutions par rapport à des pièces qui n'existaient plus, par rapport à des problématiques qui se rencontraient. Et donc, c'était plus en appétence d'innovation pour pouvoir maintenir en fait l'utilisation, l'usage, le jeu, etc. Donc, c'est parfois contre-intuitif. Et en tout cas, je pense que ça a toujours accompagné le développement d'instruments. Et je suis assez d'accord que ça doit se faire aussi dans pour quel intérêt quoi, pour que les musiciens facilitent un petit peu dans une approche fonctionnaliste, est-ce que ça favorise le jeu, ça facilite, est-ce qu'on allège le poids, est-ce que les clés sont plus faciles, etc. Ou est-ce que ça permet de varier un répertoire. Mais en fait, quelle est la fonction qu'on recherche au travers de ça? Elle peut être patrimoniale, mais on est sur des niches quand même, on est bien d'accord. Elle présente un intérêt sur la diversité, la préservation de la diversité. Mais après, c'est aussi parce que c'est des objets qui nous permettent de tester des choses et puis de les transférer à d'autres problématiques. C'est en ça que c'est intéressant d'aller chercher des matières, de faire des hypothèses, de voir comment ça peut s'appliquer à d'autres instruments. Il y a toujours eu ces ponts, donc je ne pense pas que ce soit figé, je pense qu'il y a différentes innovations. Et que les musiciens sont les premiers très demandeurs quand même, s'ils sont effectivement assez réticents parfois à des changements, il n'empêche qu'ils sont en recherche, en écoute et en découverte de fonctions qui vont venir en appui. Là, je rejoins complètement ce qui a été dit aussi tout à l'heure.
Si je peux juste rebondir par rapport à ça, effectivement, nous avons présenté notre prototype de tritouche. Qui, parmi d'autres touchés, on peut dire aussi le toucher de classin, mais enfin, ça restitue la sensation du retour d'effort des touches de différents instruments à clavier qui sont typiquement d'intérêt pour des gens, par exemple, qui fréquentent le répertoire baroque. On a effectivement présenté ce prototype au CNPV, au Centre de musique baroque de Versailles. Et là aussi, on pourrait avoir cette idée un peu préconçue que surtout les musiciens qui sont très attachés à la valeur historique de l'objet instrument de musique pourraient être réticents envers ces technologies. Mais on a effectivement, nous aussi, fait l'heureuse découverte. C'est des gens qui bricolent avec leurs instruments, qui ont envie et qui sont très preneurs de nouveautés. Et ils étaient très, très ravis de tester notre dispositif. Ils sont bien prêté au jeu et ils ont même voulu chercher à ajuster le toucher, nous proposer des solutions de réglage qui leur conviennent plus ou moins. Donc en fait, je pense qu'il y a plusieurs dimensions de la relation du musicien à l'instrument de musique et effectivement cette tendance à être un peu conservateur dans certains milieux n'est qu'une partie de la problématique, mais C'est parce qu'en fait, là, on n'est pas dans le contexte du jeu musical, à l'interface véritablement, au moment où on joue, en fait, la musique, on contrôle le son qu'on souhaite produire, mais on est plutôt attaché à l'identité, on va dire la valeur qui émane d'un objet qui peut être justement un clavecin luxueux qui donne l'impression, enfin, qui donne véritablement l'idée de quelque chose de prestigieux et que du coup, ça donne envie de jouer d'une certaine manière. Et les musiciens sont forcément attachés à toute cette dimension imagée qui est suggérée par l'instrument musique. Mais encore une fois, le problème est que l'instrument musique est un objet multidimensionnel. Et il faut un peu confronter des dimensions qui ont parfois tendance à aller dans des directions qui sont différentes. Et peut-être bien présenter l'instrument musique selon les circonstances, surtout quand on a des innovations à proposer, le cadre de la présentation de l'objet, à ce moment-là, devient crucial pour déterminer l'envie ou pas du musicien de se prêter au jeu de tester.
Merci beaucoup. Déjà beaucoup de mobilité, c'est très intéressant. J'avais une petite... Il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. Peut-être déjà sur, Miguel, tu as évoqué le fait que vous continuez à produire des modèles en fait, qui étaient peut-être moins utilisés par les nouvelles générations, mais plutôt par les professeurs qui ont appris sur une certaine version d'instrument et du coup qui ne changeraient pas ou qui préfèrent continuer. Je vais laisser répondre à ça, mais en fait ce que je me demandais c'est à quel moment la bascule peut se faire dans la pratique en fait, ou dans la version d'un instrument, et peut-être mettre ça en relation avec Maxime, ce que vous faites au niveau des becs, en fait, c'est-à-dire, puisque les musiciens peuvent choisir, au final, ou concevoir avec vous, un petit peu en collaboration avec vous, comment est-ce que, à quel moment vous observez une bascule, ou est-ce que vous observez une bascule entre ce à quoi ils sont habitués, ce qu'ils ont envie d'explorer, peut-être, je vous laisse répondre à une peut-être plus l'autre.
Alors, bon, le basculement de la clarinette 13 clé à la version clé, c'est quand même entre 1850 et 1920.
Donc, oui, non, mais c'est pour les pratiques.
Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi, il y a aussi des gens qui nous demandent de refaire des instruments d'époque pour pouvoir jouer justement de la musique d'époque. Enfin, l'époque de Mozart, c'était une clarinette à 5 clés, donc totalement différente. Mais oui, ça reste quand même un marché de niche. En fait, pour répondre à la question de qu'est-ce qui fait qu'on adopte un changement, c'est vraiment le bénéfice pour le musicien. Enfin, je pense que s'il n'y a pas un réel bénéfice, il n'y a pas de raison pour que le musicien change. Alors, bon, un bénéfice acoustique ou ergonomique ou autre, il y a aussi le cas des réglementations qui a été évoqué tout à l'heure, qui peut être une cause de changement. Si on n'a plus accès à telle ou telle ressource, ben, il faut bien faire autrement. Voilà, donc il y a toujours la question de quelles sont les attentes des musiciens, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour encourager leur pratique. Et là, heureusement, il y a encore beaucoup de choses possibles à proposer.
Ouais. Eh bien, pour compléter ça, nous, on est confrontés quand même à. On travaille beaucoup dans le monde du jazz et des musiques plus modernes. En tout cas, on est très peu dans notre fabrication de bec sur le marché des classiques. Et alors déjà, deux choses qui sont assez surprenantes. Enfin, la première chose, c'est que moi, j'ai quand même vu par expérience que finalement, c'était un peu contre-intuitif, mais les musiciens classiques sont plus... accueillent plus facilement l'innovation que les musiciens jazz, en fait. Dans le jazz, il y a vraiment une vraie culture de vintage. Enfin, un truc où il faut jouer sur son saxophone Mark VI, donc des années 70, avec un bec auto-link, si possible, le plus vieux possible, trouvé dans une... Enfin, voilà. Et ça pose comme une question de se dire comment ça se fait que le standard de qualité, ce soit un objet qui date des années 70, est-ce que quand même en 50 ans, on n'a pas progressé dans la facture instrumentale, quoi. Pourquoi on va vraiment chercher ça mais c'est quand même quelque chose qui est très présent dans l'univers, et je pense que là, il y a aussi, alors, c'est un très bon saxophone, n'y a pas de discussion là-dessus. Mais je pense qu'il y a, tu parlais de bénéfices, il y a aussi un bénéfice social dans ce cas-là qui est de se dire, bah, voilà, moi j'ai mon équipement, j'ai le saxophone traditionnel que tous les grands jazzmen utilisent, que Coltrane utilisait à l'époque, etc. Et donc il y a aussi ça. Et ça fait quand même partie des bénéfices et des attentes des musiciens de se dire, moi je joue sur un instrument vintage et ça sonne bien parce que voilà, c'est comme ça. Et je joue pas sur un violon en carbone parce que voilà. Peut-être que voilà, la pratique va évoluer. Et en fait, l'innovation, elle est là aussi là pour un peu pour faire changer le standard. Quoi. On parlait des instruments baroques, des grands voyous à l'époque. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit le standard du violon. Pourtant, à une époque, peut-être que ça s'appelait pas le violon. Moi, je suis pas très calé là-dedans. Je parle pas de terme, mais en tout cas, dans la pratique et du violon, cette famille d'instruments, c'était le standard de l'époque. Et aujourd'hui, bah, c'est plus du tout le standard. Il y a toujours bien sûr des instruments qui font des performances sur des instruments baroques. Mais quand on parle de violon aujourd'hui, c'est pas la norme. La plupart des violonistes jouent sur mais donc là il y a eu une évolution en fait et l'évolution a été socialement le standard du violon aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera peut-être autre chose parce que ou la clarinette parce qu'il n'y a plus de bois tropical parce que c'est une espèce protégée etc. Qui sait le standard entre guillemets ce qui est accepté, ce qui est normal pour les musiciens en termes d'instruments, le canon de l'instrument va évoluer aussi, et il évolue continuellement, il a évolué, il n'arrêtera pas d'évoluer. Et il y a quand même c'est quand même aussi à l'innovation de pousser un petit peu, je pense, de faire accepter des choses, de proposer. Et en fait, qu'est-ce qui est le déclic? Le déclic, des fois, il ne vient pas tout de suite. Et il vient quand même souvent quand on se rencontre, quand on pratique, peut-être qu'on pratique un peu longtemps, et quand les générations changent aussi, parce que finalement, c'est sûr que quand on a été formé sur un tel instrument, qu'on a vu ça toute sa vie, au bout d'un moment, ça forme, et il y a beaucoup, nous on observe qu'il y a aussi chez les musiciens, beaucoup, alors ils sont conservateurs, on n'arrête pas de parler de musiciens qui sont un peu conservateurs, en fait ils sont très curieux. C'est vrai qu'ils sont très attachés à la tradition, au côté vintage, à la façon dont c'était fait là. Et pourtant, ils viennent quand même essayer. Mais ils viennent essayer en disant « Ah, non, pas trop, Mais en fait, quand ils voient qu'on leur propose des choses, quand ils voient qu'on leur propose des innovations, ils sont quand même la plupart, ils sont curieux. Ils sont toujours curieux d'essayer de nouvelles choses, d'essayer tout ce qui se fait, etc. Donc en fait, finalement, c'est cette curiosité-là qui leur permet d'accepter l'innovation, parce que s'ils sont curieux, ils testent, et en fait, le déclic, des fois, pour eux, ils se passent quand ils testent, ils se rendent compte que ça marche mieux, en fait. Donc, et peut-être qu'on écroule un petit peu un mythe dans un coin de leur tête, pour certains, pour d'autres, ça marche bien, Mais dans ce cas-là, ils vont se dire, ah, ok, bon, j'accepte cette innovation, en fait, je suis content, je le joue, et puis, ça va se diffuser parce que la pratique, parce que on voit que telle personne le fait, et puis il dit tu sais, moi c'est mieux. Pour certaines personnes ça va l'être, pour d'autres non.
Il y a la reconnaissance, non, par ses pairs qui doit.
La reconnaissance par les pairs joue beaucoup, exactement. Ouais. Nous on joue beaucoup là-dessus parce que on fait des becs de couleur. Donc becs de saxophone qui sont rouges, qui sont verts et tout. Donc il y a beaucoup de gens qui hurlent un petit peu au scandale, forcément. En même temps, on n'est pas forcément en raison. mais bon, ça se voit direct quand quelqu'un joue, donc ça peut déranger. Mais en fait, c'est aussi un vecteur de diffusion. Et puis, on voit quelqu'un qui joue son mec rouge et qui joue super bien, qui est content. On se dit, ok, en fait, peut-être je vais essayer. Peut-être que c'est pas parce qu'il est pas noir en ébonite que ça va fonctionner. Voilà.
Merci. Juste une petite remarque pour dire que pour l'innovation, on parle là des musiciens, mais en tout cas, côté item, forcément, côté facteur d'instrument, on essaye de tout faire pour tout au long de leur parcours, leur parler d'innovation aussi, parce que généralement, ils viennent là pour apprendre des gestes qui sont transmis de génération en génération, et dès les premières années, on leur dit que c'est aussi possible de créer quelque chose de nouveau, et c'est même quelque chose qui est requis au bout d'un moment, que ce soit à la fin du CAP ou à la fin du BMA, de proposer une innovation dans leur domaine, soit piano, guitare ou instrument à vent. Et en fait, il y a tout ce côté de la création, de quelque chose de nouveau, éventuellement même voilà, monter peut-être une petite start-up sur la base du projet qui est vraiment sympa, quoi, et qui... Enfin, je trouve qu'il trouve son public quoi, aussi chez les gens qui, à la base, étaient venus chercher plutôt un savoir-faire historique.
Oui, pour rebondir là-dessus, en fait, on a aussi observé que ce soit côté facteur d'instrument ou côté musicien, déjà pour les étudiants, il y a une vraie appétence sur cette question d'innovation, et notamment sur la question de la seconde main et donc très liée aux enjeux environnementaux. Sans quand même une très forte sensibilité en fait, des nouvelles générations sur ces questions-là. Et donc, ils sont demandeurs que nous, on les outille un petit peu sur ces évolutions-là, qui supposent aussi de retrouver des gestes de réparation qu'on ne faisait plus, qui supposent aussi de trouver même de repartir vers de la restauration, je pense au piano. Et donc, enfin, voilà, je vois Christophe qui aussi est sur ce segment-là. On voit bien que ce marché-là est en plein essor, mais il correspond à une vraie appétence, une vraie sensibilité sur cette génération, on le constate en tout cas chez nos étudiants. Et côté musicien, c'était quelque chose de pas trop prévu de notre côté, parce qu'on avait fait, juste dans le cadre de nos travaux sur les bois locaux, on avait fait une mentonnière de violon, mais qui n'était pas du tout prévu, dans un projet, juste pour s'amuser un petit peu, et puis on a exposé ce violon-là, puis on a prêté en fait à un ensemble qui s'appelle Vox Campus, à l'université, et il a été très demandé, et on s'y attendait pas, c'est le côté design en fait, hein. Le fait que cette mentonnière était en bois veiné par des champignons, etc., elle connotait le fait que je suis attentif à une démarche écologique, hein. Et ça c'était plutôt un côté design qu'on n'avait pas prévu, et qui en fait répond à une attente de signifier aux autres aussi qu'à un moment donné je m'inscris dans un autre type de démarche. Donc là on est pas spécialiste de ces questions, on va dire presque de marketing ou de d'usage, hein. C'est quelque chose qu'on voilà, n'attendait pas, mais on se dit qu'il y a quand même des vraies mutations qui existent, hein, qui sont en train de se produire, qui sont évidemment en plus très contraintes maintenant par des aspects réglementaires, et qui font qu'on va avoir des accélérations qui vont se faire sur les attentes en innovation. Là où on est en difficulté, je me permettrai de dire qu'on a quand même très, très largement bataillé dans le cadre des diplômes de l'éducation nationale sur le fait de faire mémoire ces questions-là, et ces nécessités de transmettre au-delà des savoir-faire traditionnels des problématiques d'innovation et même des nouveaux savoirs qui arrivent et qui sont associés à ces questions d'innovation, que ce soit sur les matériaux, que ce soit sur les procédés de fabrication, que ce soit sur la connaissance même des réglementations, on a eu toutes les peines du monde de dire, parce que le schéma métier d'art en France est sur un schéma infra-bac, CAP et bac pro, hors pour le quatuor qui est sur un schéma diplôme national métier d'art et design en bac plus 3. Et donc dans le schéma national, on va dire pour la plupart des métiers d'art qui restent sur ce schéma infra-bac, la question d'innovation, elle n'est pas prévue, tout simplement pas prévue sur un niveau CAP et brevet métier d'art, donc les brevets nationaux métier d'art. Ce qui fait qu'on a quand même un hiatus entre le fait de soutenir, de répondre aux nouveaux usages, aux nouvelles demandes, aux enjeux environnementaux, réglementaires et autres, et le faire valoir et le traduire dans des diplômes qui permettraient de sécuriser un petit peu cette transmission-là et cette sensibilisation qu'on fait nous, en fait, de façon, on va dire, volontaire, mais absolument pas liée à des obligations de diplôme. Voilà, c'est un peu en dehors de nos débats, mais je tenais quand même à dire aussi qu'il y a finalement à réfléchir sur la question de la transmission et de la formalisation de cette transmission, et de la sécurisation et de l'accompagnement un petit peu de tout ça, qui est plus en humanitaire et des partenaires, hein, évidemment, mais qui est un débat qui est très soutenu. Voilà, c'est ça.
Je ne sais pas si Sylvie voulait rebondir là-dessus. J'avais encore beaucoup de questions, mais en fait, on risque de déborder. Du coup, je propose qu'on prenne des questions du public, s'il y a des questions dans la salle, parce que j'imagine que ça peut alimenter des discussions aussi.
Une question en remarque, parce qu'on parlait des innovations, d'adoption d'innovation. Je pense qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. Alors, je vais le dire un peu, sans doute, de façon simpliste. Mais j'ai l'impression que le XXe siècle a été vraiment le siècle de la normalisation, de l'unification de la proposition, et que on arrive, au contraire, maintenant, à une époque de l'individuation, peut-être même exacerbée, et que l'innovation, elle peut être là aussi, et elle est là aussi, c'est elle trouve sa place dans la façon de personnaliser l'instrument, personnaliser son ergonomie, personnaliser sa bâtonnière, donc ses messages extérieurs. Et je pense que l'adoption de l'innovation, aujourd'hui, c'est aussi l'adoption individuelle de rendre l'instrument plus individuel et plus singulier, et moins dans cet effet de normalisation absolue qui a été quand même, pour moi, un des grands marqueurs du XXe siècle. Oui.
Si je peux dire un peu une réaction par rapport à ça. Justement, c'est quelque chose que j'ai pas dit. On se met en tient beaucoup à cet aspect de la technologie qu'on propose de synthèse du toucher. Il ne s'agit pas simplement d'imiter ce qui existe déjà, mais il s'agit de rendre ajustable au gré des musiciens cette dimension haptique qui permet de contrôler le son. Donc en fait, ça ouvre des tas de possibilités dans ce sens-là, et pour faire des touchers inédits qui n'existent pas, mais aussi pour régler chacun à sa manière l'instrument comme il souhaite. Et je pense que ça va complètement dans cette direction-là, et c'est effectivement quelque chose qui est permis par la technologie actuellement. Il vaut mieux l'exploiter pour donner aux musiciens quelque chose qui n'existait pas auparavant.
Et juste pour rajouter un petit mot là-dessus, sur la personnalisation, on est beaucoup confronté à ça, et on voit que au-delà du fait d'avoir un instrument qui est vraiment adapté à ses besoins, à ses attentes, qui est déjà une très grande valeur ajoutée, ce qui fait aussi la différence pour le musicien, c'est qu'il reparticipe un petit peu plus à la conception de son instrument. Et en fait, ça recrée du lien entre le musicien et l'instrument, de se dire, bah, ok, en fait, j'ai participé à l'élaboration de mon outil de pratique musicale, en expliquant ce que je voulais, puis en donnant un retour, voilà. Et en fait, ça c'est aussi quelque chose qui est... qui était, comme tu dis, je pense, qui a disparu, puis qui est en train d'apparaître.
Oui, tout d'abord, merci pour les interventions qui sont très stimulantes. Et je voulais justement apporter une petite précision, parce que tous ces discours autour des personnalisations, des soi-disant normalisations dans l'organologie, n'est pas une question du XXe siècle. De toute façon, si on regarde dans les archives, on retrouve les traces, notamment dans une certaine littérature qui concerne celle des manuscrits. Donc, on est dans les milieux des dispositifs d'auto-apprentissage qui commencent à se diffuser à partir déjà des premières années du 19e siècle. Et là, on retrouve les traces écrites des certains musiciens qui demandent aux facteurs d'instruments, soit en termes de petits ateliers, soit en termes de grandes manufactures, à Paris comme à l'actuelle Autriche, demande de personnalisation pour adapter les instruments au goût de la musique de cette époque. C'est-à-dire qu'on voit bien décrit ces passages qui aujourd'hui nous on appelle les personnalisations, mais qui à l'époque n'étaient pas du tout conçus de cette manière. C'est-à-dire que des musiciens ont dit je vous demande de modifier cet aspect-là de l'organologie de cet instrument parce que j'en ai besoin pour jouer ce type de répertoire. Donc, et à mon avis, en tant qu'historien de la musique et organologue, je pense que c'est quelque chose qui était toujours présent. Et si j'ai mis la casquette du musicien, ça n'existait pas, à mon avis, un musicien professionnel qui n'essayait pas de bricoler son instrument. C'est-à-dire qu'un instrument parfait n'existe pas. Chaque musicien a besoin de toucher, voilà, on utilise ces mots qui peut-être n'est pas tout à fait correct, de bricolage, donc l'action de bricoler l'instrument, mais ça fait partie de l'apport du musicien à sa matière sonore. Donc c'est quelque chose qui était toujours présent et qui a permis et qui permet l'évolution de la musique. Après, il y a certains musiciens qui sont capables d'autres. Il y a certains instruments sur lesquels les musiciens peuvent intervenir seuls. Il y a d'autres instruments, par contre, qui nécessitent de certains outils et qui nécessitent aussi de certains savoirs et savoir-faire. Alors là, les musiciens rencontrent les facteurs d'instruments. Et là, par le biais de ce dialogue continu, on voit se vérifier des changements qu'aujourd'hui on appelle innovation, personnalisation, etc. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est toujours présente. On la retrouve dans tous les milieux techniques.
Ok,
Donc, il ne concerne pas que la musique. Il y a 7 ans, parce que c'était des questions qui étaient très bien abordées dans d'autres secteurs professionnels, etc. Donc, voilà, juste une petite précision.
Merci. Bien, si je peux juste rebondir là-dessus, il y a quand même une question de l'échelle à laquelle ça se produit et de quel musicien on parle, parce qu'à l'époque, la musique était beaucoup moins accessible au grand public qu'aujourd'hui, et du coup, la standardisation elle a permis aussi un accès plus grand à la musique à une plus grande partie de la population qui ne pouvait pas, je pense, se faire fabriquer sur mesure des instruments. Parce que c'est cher, tout simplement. Et donc, du coup, la technologie d'aujourd'hui, elle peut peut-être permettre d'amener un peu plus cette personnalisation sans que ce soit un travail d'orfèvre qui va être plus cher et donc de la rendre peut-être plus accessible aussi.
Oui,
pardon,
non. J'ai trouvé des traces. Voilà. En fait, ça dépend des contextes, mais... Je veux dire, il ne faut pas imaginer le 19e siècle comme quelque chose de moins performant qu'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, si on regarde la facture instrumentale chez Erard, pour citer un cas français, était tellement... Je pense que vous m'entendez également.
Bon. La facture à l'époque était tellement déjà performante et organisée qu'on retrouve exactement les mêmes chemins d'organisation aujourd'hui dans certaines autres usines. Donc, si on se pose cette question, on se dit qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 150, 200 années ? Se sont changées les machines, parce que la technologie a avancé, on a substitué certains matériaux, mais en termes d'organisation, je vous assure que certaines choses n'ont pas bougé énormément. Donc, quand quelqu'un posait cette question, eh bien, moi je trouvais des traces qui démontrent que n'importe qui pouvait demander ces personnalisations et qui n'écoutait pas trop cher. Après, bien sûr, si on demande d'appliquer de l'or, de substituer, je ne sais pas, du cuivre avec de l'or, bien sûr, même à l'époque, c'était quelque chose de très coûteux. Mais ça c'est normal. Mais la demande de personnalisation, parce que c'est ça l'objet. Était quelque chose d'assez fréquent. Et après, si on parle des standardisations, je pousse la question, qu'est-ce que vous entendez pour standardisation ? C'est-à-dire, c'est qui au bout d'un moment impose un standard ? C'est un répertoire ? C'est un facteur d'instrument ? C'est une question culturelle ?
C'est l'institution.
Moi, je trouve des standardisations qui sont tout à fait culturelles.
C'est l'institution.
Et qui, l'institution,
S'il y a cette standardisation aussi forte au XXe siècle, c'est notamment lié à l'institutionnalisation.
Du marché, parce que si on regarde les milieux des musiques et des traditions orales, on voit une panoplie d'instruments du même modèle qui se diffuse partout dans X déclinaisons possibles.
Oui, l'institutionnalisation, j'inclus la patrimonialisation, etc.
Je vous propose de poursuivre la discussion, cette riche discussion pendant la pause, du coup. Et pareil pour les questions, désolé, non. Sinon on risque de déborder, mais vous avez l'occasion de discuter soit pendant la pause, soit ce midi. Et je vous propose qu'on remercie encore une fois les intervenants.